Au-delà de la glace,
on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet.
Au-delà de la glace.
Mais bon, c'est pas une surprise non plus, je veux dire, je pense qu'on s'y attendait.
Au-delà de la glace.
Notre métier, c'est quand même d'entraîner, d'être sur la glace, d'être en contact avec les joueurs, et là, on est privé de ça.
Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Au-delà de la glace. À situation exceptionnelle, podcast exceptionnel. Aujourd'hui, nous voulons évoquer avec vous la situation des équipes de France, l'annulation du championnat du monde, le report ou non des TQO, cas contact, cas Covid. C'est une situation très particulière que vit le hockey français et aujourd'hui, notre podcast se déroulera en deux parties. Dans une première partie, nous allons parler de l'équipe de France féminine et puis dans une seconde, nous le verrons ultérieurement, de l'équipe de France masculine avec des invités vraiment exceptionnels. Donc pour cette première partie et pour en parler, nous recevons aujourd'hui une joueuse de Cergy-Pontoise. Elle est également entraîneur des mineurs des Jokers et assistante capitaine de l'équipe de France. Et j'ai l'honneur d'accueillir ce soir Morgane Rié.
Bonsoir.
Morgane, avec toi pour parler de ce sujet qui est à mon avis complexe. Nous avons une étudiante de l'INSA Lyon, qui est également joueuse de rugby, mais elle est là ce soir parce que c'est avant tout une hockeyeuse depuis de nombreuses années. Elle a joué à Lyon, à Tours, à Clermont-Ferrand. Elle est également arrière de l'équipe de France depuis 2012. J'ai nommé Raphaël Grenier. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Depuis le mois de septembre, c'est le début de la saison qui, je pense, a été compliquée. Comment s'est déroulé ce début de saison pour vous ?
Alors, je vais commencer. Oui, début de saison difficile en termes de protocole sanitaire. Voilà, au début, nous, ça dépend les mairies, les villes, les régions. Mais nous, à Cergy, on n'avait pas de vestiaire au début. Voilà, on devait venir s'équiper, enfin déjà tout équipé. Après, on avait accès à la glace. Donc ça, c'était plutôt positif parce qu'il y a d'autres patinoires qui sont restées fermées.
C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais toi, Raphaël, au début de saison, tu jouais à Clermont, Roanne
Oui, je jouais avec l'alliance Lyon-Clermont-Roanne, HCLR, qui s'est créée l'année dernière. Donc l'alliance, elle marche où on s'entraîne dans son club et puis le week-end, on se retrouve pour jouer ensemble, pour être plus compétitif au niveau U17. Et donc nous à Lyon, pareil qu'avec, je rejoins Motus sur la mise en place de protocoles qui était quand même assez lourd où on n'avait pas forcément les vestiaires, sachant que à Lyon on a eu la chance d'avoir la glace très tôt, on a récupéré la glace en juin et j'ai pu m'entraîner à la sortie du stage d'été directement à Lyon. Par contre, on a été touché par le Covid. L'équipe des trois et ce qui a fait qu'on n'a pas pu s'entraîner pendant deux semaines. Et moi, j'ai eu un peu aussi la malchance d'être cas contact, donc j'ai eu une grosse coupure au début de saison qui a été quand même pas facile à gérer parce que pendant trois semaines, je pouvais pas sortir de chez moi et je pouvais pas aller à la patinoire. Mais maintenant, j'ai rejoint, vu que là, il y a l'arrêt des championnats, j'ai pris la décision de rejoindre le pôle pour avoir un meilleur contact.
Tu disais là, tu as rejoint le pôle, mais ça veut dire que tu vis à côté de Cergy parce que, comme je l'ai évoqué en introduction, tu es aussi étudiante à l'INSA de Lyon, il me semble.
Je suis en alternance, en fait. Je travaille à côté dans une entreprise. Je travaille en informatique. Et donc, avec le confinement, là, je suis en période d'entreprise. Avec le confinement, on est passé en full télétravail, vu que c'est vraiment notre domaine, on est câblé pour. Et du coup, j'ai saisi l'opportunité de pouvoir travailler de n'importe où, finalement, pour pouvoir monter à Cergy et être hébergée dans les résidences prévues avec les autres joueuses du pôle. Et pour pouvoir profiter de cette bulle sanitaire pour m'entraîner et progresser. Alors qu'à Lyon, comme disait, on est dans les sports études qui peuvent s'entraîner. Et donc, ça avait réduit considérablement mon nombre d'entraînements, alors que bah, au pôle, là, par exemple, le mardi et le jeudi, je m'entraîne 3 fois sur la glace.
Morgane, toi, tu es avec l'équipe de Cergy. Tu jouais de temps en temps avec l'équipe des trois. J'imagine qu'aujourd'hui, tu ne joues plus. Donc, est-ce que tu joues avec le pôle maintenant?
Donc, là, au début, on pensait que ça allait être possible pour moi que je m'entraîne avec le pôle. Et finalement, vu que j'ai toujours mon activité d'entraîneur avec Cergy, et que je viens de l'extérieur et que je ne suis pas confinée avec les filles, je ne peux malheureusement pas m'entraîner avec les filles du pôle.
D'accord.
C'est la fédération a décidé ça. Donc, contrairement à Raph, qui, elle, est confinée et dort dans le même endroit que les filles du pôle, moi, vu que je viens de l'extérieur, je ne peux malheureusement pas être avec elles sur la glace. Donc, j'ai des créneaux de glace avec Cergy, spécialement pour les sportifs de haut niveau et aussi les joueurs en formation avec la Magnus, entre guillemets. Donc, on est sur la glace, on est 5. On est 3 joueurs et 2 entraîneurs. Et donc, on travaille comme ça 4 fois par semaine pendant 1 heure. On a 1 heure de créneau le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et voilà, on s'entraîne comme ça.
Donc, tu joues avec la Magnus, avec certains joueurs de Magnus, c'est ça?
Des joueurs en formation, donc c'est plus des U20.
Ok.
Voilà.
On voit que depuis le début de la saison, c'est quand même pas simple. Alors, problématique de glace, problématique de cas contact. Comment on gère, quand on est sportif de haut niveau, ce stop and go comme ça?
C'est pas facile. faut rester concentré et rester concentré sur ses objectifs. On a tous des objectifs avec l'équipe de France. On veut aller au JO. C'est essayer d'arriver plus loin que la semaine ou les 2 semaines où on est privé d'entraînement, on est privé de compète. Et de garder le cap, c'est difficile, mais le fait d'avoir ce gros objectif derrière, ça aide à garder le focus sur continuer à se maintenir en forme par ses propres moyens pour revenir, pour quand on pourra enfin revenir et revenir à la normale, revenir à faire des matchs ou revenir juste pour voir si on a contact, revenir en forme et pas avoir perdu
trop de temps. C'est exactement ça. C'était vraiment pour garder du rythme, se faire un planning, par exemple, quotidien. Et se fixer aussi des petits objectifs par semaine et vraiment garder le rythme, faire comme si c'était une saison normale, mais si on est confiné chez soi ou si on a de la glace, profiter de ces créneaux de glace justement pour travailler fort, quoi.
Là vous m'évoquez beaucoup la partie préparation physique. Je sais que vous êtes accompagné par Jérôme Fernandez, le préparateur physique de l'équipe de France, sur ces sujets-là. Mais psychologiquement, franchement, ça doit pas être simple de se dire, on sait pas quand est-ce qu'on va reprendre la glace, on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir jouer. Là aussi, comment vous vivez? Et deuxième question, c'est quoi une journée type aujourd'hui pour vous? Pour toi, Raphaël.
Là, je m'entraîne avec le pôle. En fonction de la journée, je vais me lever pour aller m'entraîner, ou alors je vais me lever et puis je vais mettre sur mon ordi dans la chambre pour travailler. Une fois que le midi, je vais manger. Si on est monté sur la glace, je vais travailler à partir de 10 heures. Certains midis, j'ai de la glace. Et après, sinon, c'est travailler jusqu'à peu près 17h et puis ensuite 17h, 17h30. Et ensuite, réentraînement le soir et accès à la muscu avec Jérôme, justement, qui a vraiment la particularité de vouloir individualiser au maximum. Donc, c'est-à-dire que si j'ai eu 3 glaces la journée, on ne va pas faire beaucoup de muscu, on va faire quelque chose de léger. Donc ça, c'est ma journée type. Ensuite, par rapport à l'aspect mental, je pense que c'est beaucoup d'abnégation puis de préparation en amont. C'est-à-dire que je pense qu'on était capable de se dire, et on s'est toutes dit, que cette saison allait être très difficile, très compliquée. enfin, en tout cas, moi, je m'étais préparée à que ce soit. Et j'ai essayé de pas avoir d'attente. C'est-à-dire que si on peut jouer, tant mieux. Sinon, bah, c'est la vie, tant pis, quoi. Enfin, on peut pas, si on commence à rentrer dans cette frustration de se dire, ah, je peux pas m'entraîner, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, on commence à tout prendre sur nous et c'est là que ça devient compliqué. C'est pas facile tous les jours, mais je pense que, enfin, moi, j'ai la chance d'avoir des proches sur qui je peux compter et en parler. Et quand ça va pas et que ça m'énerve, bah, j'ai juste besoin de le dire et puis, une fois que c'est sorti, c'est bon.
Et moi, du coup, alors, ma journée type, bah, je continue à entraîner au club de Cergy. On a donc le pôle espoir lycée qui s'entraîne, donc ils ont 2 entraînements par jour. Donc ça occupe, enfin tous les entraîneurs du club, ça les occupe pas mal. Et en plus, on a aussi les collégiens, donc les classes à horaires aménagés collège qui retournent sur la glace aussi. Et faut faire les devoirs. Ils ont du soutien scolaire. Faut qu'on aille les chercher au collège. Ça prend du temps. Moi, ma journée type, c'est à 10h, je vais à la patinoire. Ensuite, je fais ma muscu vers 11h, midi. J'enchaîne l'entraînement glace vers 13h30 jusqu'à 14h30. Et ensuite, là, je fais les navettes. Je vais chercher tous les collégiens au collège. Je les ramène à la patinoire. Ensuite, on embarque avec les collégiens sur la glace de 16h à 17h. Et après, on fait les devoirs de 17h30 à 18h30. Et j'ai fini ma journée, ou soit je monte sur la glace avec le pôle espoir.
Mais du coup, tu aides à faire les devoirs des collégiens?
Oui, parce que je suis en charge du suivi scolaire de tout le sport études. Et là, en plus, les conseils de classe vont bientôt arriver. Y a l'aspect sanitaire aussi qui est compliqué au lycée. Donc, il faut vraiment que je veille à ce que les joueurs fassent leurs devoirs et aussi que ça suive à l'école, quoi.
Avant de passer un peu plus précisément à l'actualité de l'équipe de France, depuis le début de l'épisode, on entend Raphaël dire Motus lorsqu'elle te parle, Morgane. Ça vient d'où, ce petit surnom?
Alors, donc j'ai commencé le hockey sur glace à Cergy-Pontoise. Et quand je jouais avec les féminines de Cergy, je crois j'avais 14 ans. À 14 ans, ouais, j'ai commencé à jouer avec les filles de Cergy. Je sais pas, il y a une fille qui a trouvé que c'était moche de m'appeler Momo. Ça faisait vraiment... c'était pas agréable à entendre. Et elle a commencé à chanter une petite chanson, genre Momo Motus, comme le fameux jeu sur France 2. Et puis là, une autre fille a dit « Ah bah, on va t'appeler Motus ». Et voilà, c'est juste par rapport à la chanson, en fait. Mais rien à voir avec... parce que je ne parle pas ou parce que je suis réservée ou timide, rien à voir avec ça. Mais non, c'est juste par rapport à la chanson. Voilà.
Oui, parce que quand on te connaît un peu, effectivement, t'es pas vraiment la plus timide de l'équipe de France, je pense. Et toi, Raphaël, j'en profite. T'as un surnom dans l'équipe de France?
Soit Raph, Raph plutôt en équipe de France. Après, chez moi, c'est plutôt Rafi, mais c'est plutôt ma famille.
Moi, je l'appelle autrement, Raph.
Ah!
Ça, c'est pas à dire.
Je garde pour
moi. Ah bah non!
Non, je suis la seule, je suis presque la seule à l'appeler comme ça. Allez, je garde pour moi.
Bon.
Sauf si Raph est d'accord, mais je pense pas que... Je pense qu'il n'y a pas trop... Voilà.
Je sais pas si c'est entendable. Pour nos jeunes auditeurs, on va
Ok, bon. Après ce moment, on va revenir sur le quotidien de l'équipe de France. Malheureusement, pas de championnat du monde à Angers. C'est un peu dommage pour toi, Raphaël, je pense. Ça te tenait à cœur?
Ah bah oui, c'est mon club formateur, évidemment que ça me tient à cœur. Il y a toujours mes parents qui habitent là-bas, qui jouent là-bas. Mais je me dis que c'est partie remise, que le club a vraiment envie d'avoir ce championnat du monde. Ça fait 2 ans qu'il est remis à cause du Covid. Je pense qu'il y a des chances pour qu'un jour, il y ait un événement, un gros événement à Angers. Ils ont la nouvelle patineur qui est là pour. Mais bon, c'est pas une surprise non plus. Je veux dire, je pense qu'on s'y attendait.
Oui, c'est. On s'était préparé psychologiquement un peu.
Depuis le début de la saison ou que depuis un mois?
Moi, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de cas Covid dans les clubs, de cas positifs, que ce soit tous les matchs reportés, je dirais début octobre. Ouais, voilà, début octobre. Peut-être mi-octobre, je me suis faite à l'idée que ça allait être annulé. Et aussi, il y a eu l'annonce, du championnat du monde U18 qui avait été annoncé peut-être fin septembre. Du coup, à ce moment-là, on s'est dit aussi que pour nous, ça allait être compliqué.
Ouais, pareil, mi-septembre, moi, quand le club a beaucoup été touché par le Covid, que j'ai vu un gros nombre de matchs reportés, je me suis dit ça va être compliqué cette année. Et tout ce qu'on pensait, c'était un peu le report de la décision. Mais finalement, le fait qu'on sache directement maintenant que c'est annulé, au moins on peut se préparer et mieux planifier le reste que d'avoir l'inconnu de est-ce qu'on jouera le championnat du monde ou pas. Puis je suis sûre qu'il va arriver à Angers un jour, donc... Je vais jouer jusqu'à... Pour au moins, je vais jouer à un championnat du monde chez moi. Donc c'est que partie remise.
Effectivement, ce que tu disais sur le report de la décision, la semaine dernière, on avait Manuel Colliot, Greg Tarlet, Greg et Marion. Effectivement, c'est ce qu'ils pouvaient se dire, c'est-à-dire qu'ils décalaient à mi-janvier. En fait, oui, ils ont décalé une décision à mi-janvier, c'est le championnat élite, et ils ont annulé tous les autres. Mais je rebondis sur ce que tu disais, c'est peut-être pas plus mal parce qu'aujourd'hui, vous avez un seul et unique objectif, c'est le tournoi de qualification olympique, qui n'aura pas lieu en août, mais en novembre. Donc ça repousse aussi de 2 mois. Est-ce que c'est bien pour vous de se positionner dans ce report de 2 mois? C'est quelque chose de positif, de négatif? Vous avez de toute façon ces objectifs et je pense que celui-là, par contre, ils vont pas le décaler. Donc voilà, là vous avez, j'allais dire, un an quasiment jour pour jour pour vous préparer.
Après, je pense que le championnat du monde, il aurait fait une bonne prépa pour la qualif. Mais ce qui est bien, c'est que tout l'été, on va avoir 2-3 mois où on va pouvoir vraiment préparer à fond cette qualif et toutes se retrouver parce que là, actuellement, on ne sait pas quand on va se retrouver encore. Donc voilà, je pense que ça va être une très belle préparation et on va se refocaliser mort sur cet objectif-là, quoi. Donc ça peut être bénéfique.
Et toi, Raph?
Ouais, je suis d'accord avec Montius. On a vraiment le mois d'été, enfin tous les 2 mois d'été pour se préparer. Les saisons ont repris, donc on aura des matchs dans les jambes pour tels qu'on a repris leur championnat. Donc oui, je pense que ça peut être positif de l'avoir en novembre plutôt que fin août où finalement on a parce que ça fait 3, 4, 5 mois que les championnats sont arrêtés, quoi. Parce que c'est la pause.
Oui, donc d'autant plus que la Suède joue en ce moment, enfin en tout cas les joueuses suédoises jouent en ce moment dans leur championnat. Finalement, le fait de décaler de 2 mois, c'est peut-être pas un avantage, mais en tout cas, ça remet sur un pied d'égalité puisqu'on repartira sur une nouvelle saison, la saison 2021-2022. STQO sera l'équivalent du regroupement du mois de novembre, j'imagine, donc tout début novembre en Suède. Ça, vous savez déjà où vous allez aller. C'est peut-être pas plus mal.
On verra bien, hein, on espère. Après, on a quand même beaucoup de joueuses qui jouent encore, toutes celles qui sont en Suède et Finlande. Je pense même la Suisse joue encore. Donc, il n'y a que celles qui sont vraiment en France et au Canada, États-Unis, qui sont plutôt concernées par l'arrêt des championnats ou la non-reprise. Et c'est vrai qu'on espère que ce sera un avantage pour nous.
Après, là, bon, rien à voir, mais la Suède, en ce moment, je crois que c'est compliqué. Ils ont déjà annulé quelques championnats, en plus dans le hockey masculin mineur. Mais voilà, j'ai eu un peu des filles là, et récemment, elles me disaient qu'il y avait eu pas mal de cas dans certaines équipes et que là, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, à tout moment, le championnat peut être encore repoussé. Mais c'est vrai que leurs conditions, le championnat, c'est un très bon championnat, le championnat suédois. Elles ont des matchs 2 voire 3 fois par semaine. Donc pour la préparation au qualif, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi.
Morgane Motus, je rebondis sur ce que tu as dit juste avant. Effectivement, vous n'êtes pas prêt de les revoir, vos coéquipiers de l'équipe de France. Novembre, décembre annulé. Février, normalement, il devrait y avoir potentiellement un regroupement, mais rien n'est sûr aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que vous allez pouvoir vous regrouper. C'est ça qu'on se dit ?
C'est ça.
D'accord. Vous suivez un peu, là, vous disiez, j'ai les filles en Suède, en Finlande, ça joue, en Suisse. Vous suivez un peu leur parcours ?
Alors, moi, j'ai pas le temps de regarder les matchs en live. Puis, il faut des codes, tout ça, ou il faut le VPN. Moi, j'y connais rien, donc j'ai pas trop. J'ai pas.
Ça apprendrait.
Voilà, c'est ça. Tu m'apprendras, Raph. Mais après, voilà, tous les résultats, je les regarde sur. Je sais pas, il y a une application qui donne les résultats en direct. Donc voilà, je suis leur parcours, mais après j'ai pas l'occasion de voir les matchs. J'en ai vu un en replay ou deux, mais voilà, c'est tout.
Et toi, Raphaël, tu regardes un peu ?
Et toi, Raph ?
Bah, pareil, je suis mal occupée, donc j'ai pas trop le temps de regarder les matchs. J'essaye de suivre un maximum. Je trouve que les articles de la Fédé sur les Bleus de l'étranger, c'est vraiment top. Quand j'ai pas le temps de regarder un peu en live, je regarde le catch-up un peu. Et puis après, je suis plus particulièrement la Suisse parce que j'ai une de mes très bonnes amies qui joue là-bas. Mais voilà, c'est plus aussi par affinité que je regarde un peu plus la Suisse, mais j'essaie de regarder un peu la Finlande, ce qui se passe en Finlande et en Suède.
Okay.
Parce que c'est important d'avoir des liens pendant qu'on se voit pas, parce que ça va bientôt faire un petit moment qu'on n'a pas joué de vrais matchs ensemble. Depuis février dernier. C'est bien de
tout le monde. Eh ben alors, petite information pour nos auditeurs et puis peut-être probablement pour vous. On va recevoir dans Au-delà de la glace les joueuses finlandaises parce qu'effectivement, depuis les joueuses qui jouent en Finlande, en fait, je les appelle les Finlandaises, donc, mais non, c'est bien les Françaises qui jouent en Finlande. Et donc, on les recevra dans Au-delà de la glace parce qu'elles font un début de saison plutôt top. Et donc, voir un peu comment elles se sont habituées à un nouvel environnement, un peu loin de la France. Elles, en plus, le confinement, elles savent pas ce que c'est. Donc, on les recevra prochainement. Et on verra comment ça se passe pour elle. On arrive à un moment un peu plus léger, j'allais dire d'au-delà de la glace. Vous allez entendre un jingle. C'est le moment pour nous là de vous poser une question qu'on pose pas souvent aux joueurs ou aux joueuses de hockey. Est-ce que vous avez un livre ou un film qui a un rapport au hockey ou pas, mais qui, voilà, c'est le film que vous adorez, le livre que vous adorez. Ça peut être par rapport à, je sais pas, peut-être toi, Raphaël, tu adores lire un bouquin sur le développement C++.
Pas trop, désolé.
Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un peu votre point de vue, le moment un peu, surtout en période de confinement. Voilà, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous aimez regarder ?
Moi, je peux bien commencer.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Moi, justement, j'aime beaucoup lire pour m'évader. J'aime particulièrement un livre, un de mes livres préférés serait Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Je le trouve super bien écrit et Et je trouve que le personnage du conte, incroyable. Mais en ce moment, j'essaie plus de lire un peu en anglais pour, parce que ça me détend et que ça me fait travailler un peu mon anglais capitalisé de mon année au Canada où je suis mes cours en anglais. Et en ce moment, je suis plutôt à lire Becoming de Michelle Obama. Et après, pour quelque chose au niveau un peu plus ok, moi, je reste dans les classiques. J'aime beaucoup le film Miracle.
Ah.
C'est tiré d'une histoire vraie et c'est typiquement le genre de film que j'aime bien.
Et toi, Morgane ?
Je rejoins Raph pour Miracle. Voilà, je pense que c'est la référence... pour l'un des films de hockey. Et ensuite, moi, je sais que pendant la première période de confinement en mars, j'ai vraiment écouté beaucoup de podcasts. Ça, je trouvais ça vraiment... Enfin, il y a des podcasts sur plein de thèmes différents. Donc, ça me permet, moi, de me cultiver sur différents thèmes. Voilà, et puis en ce moment j'écoute des podcasts sur les femmes puissantes de Léa Salamé sur RTL et t'as tout type, enfin t'as des chanteuses, Carla Bruni, des femmes politiques, des femmes sportives, donc c'est vraiment intéressant d'avoir leur point de vue sur certaines choses, sur les femmes aussi en particulier dans le monde. Et en livre, j'aime bien les romans policiers et j'aime bien Joël Dicker. Donc j'ai lu presque tous les livres. Il y a le dernier là que je vais bientôt commencer. Et pour le moment, celui que j'ai préféré, c'est le livre des Baltimore. Et puis là, son dernier, c'est La Chambre 182, je crois, que je vais bientôt commencer. Voilà.
C'était pas prévu, mais vos deux commentaires là, vos deux présentations me font penser que vous avez un rôle féminin, enfin une femme qui est un peu votre, pas dire idole, mais auprès de laquelle vous pourriez vous reconnaître dans le monde sportif, dans le monde politique, dans le monde littéraire.
Voilà, moi j'ai pas un modèle particulier, enfin de femme. Pour moi, il y en a beaucoup qui m'interpellent et que j'admire, par exemple il y a Christiane Taubira, l'ancienne ministre de la justice, elle a œuvré pour des, enfin elle a défendu pas mal de projets, enfin de projets de loi que je défends aussi. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, quelqu'un qui représente, pas qui représente beaucoup pour moi, mais je l'admire, quoi. C'est une femme puissante et pas politique que j'admire.
Et toi, Raphaël ?
Après, je dirais il y a pas mal de femmes que j'admire, mais j'essaye un peu de regarder un peu partout, soit des scientifiques, des sportives, des femmes politiques. Et il n'y en a pas particulièrement une qui ressort, quoi. J'aime bien, typiquement, il y a des parcours hyper enrichis. Mais il n'y a pas une personnalité que je mettrais au-dessus des autres. J'essaye de m'inspirer un peu de chacune pour faire ce que je fais et pour œuvrer au quotidien pour faire mes trois parcours.
On va finir sur ce bel échange philosophique. Je vous remercie Morgane et Raphaël d'être venus ce soir.
Merci à vous pour ce beau moment.
Merci de nous avoir invités.
Merci les filles. Maintenant, on va évoquer avec vous la situation de l'équipe de France masculine de hockey. De la même manière que l'équipe de France féminine, les regroupements du mois de novembre et du mois de décembre ont été annulés. Les championnats du monde ont également été annulés. Pour le moment, pas le TQO, mais ça pourrait arriver. En tout cas, il y a une date de réservée pour novembre également pour les hommes. Philippe Bozon et Damien Fleury, qui sont dans un regroupement actuellement, nous ont accordé quelques minutes. Et nous avons également un invité exceptionnel avec lequel nous allons pouvoir échanger sur la situation de l'équipe de France masculine de hockey sur glace. On veut faire le point sur l'équipe de France et donc en invité, nous avons Philippe Bozon, le coach de l'équipe de France. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Il est accompagné du capitaine de l'équipe de France actuellement, Damien Fleury. Bonjour Damien.
Bonjour.
Et puis pour m'accompagner sur ce podcast, j'ai également invité Nicolas Leborgne, qui est rédacteur pour Hockey Archive et qui suit depuis très longtemps l'équipe de France. Bonjour Nicolas.
Bonjour Brice.
Merci. Merci à tous d'être là. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Situation compliquée pour tout le monde dans le monde du hockey. On sait qu'on a eu des dernières nouvelles un peu compliquées aussi pour au niveau de l'équipe de France. La première question pour moi, elle est simple, c'est comment allez-vous ?
Vas-y, Damien.
Ça va très bien. C'est sûr qu'on a eu quelques semaines dernièrement assez compliquées avec le Covid, mais là maintenant tout est rentré dans l'ordre et la santé va bien et du coup c'est top.
Pour nous c'est un petit peu plus difficile de pas avoir d'activité. Notre métier c'est quand même d'entraîner, d'être sur la glace, d'être au contact avec les joueurs et là on est privé de ça depuis maintenant longtemps. On arrive à suivre, on va dire, les championnats qui se joue actuellement quand même certains joueurs. On arrive à voir du hockey, mais on est un peu frustrés et marre de toutes ces réunions Zoom ou autres qu'on a à faire. Le deuxième confinement est quand même beaucoup plus difficile. Et puis, est tombé de pas de championnat du monde. Donc, même si c'est vrai que tout le monde s'y attendait, mais ça alourdit encore, ça veut dire deux années de suite sans championnat du monde avec pas mal de conséquences pour l'équipe de France. Donc, j'avoue que c'est un peu le ras-le-bol.
Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Damien. Ça va mieux, problématique Covid, j'allais dire, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'en Magnus, beaucoup d'équipes ont été touchées, mais c'est pas frustrant de ne pas jouer pendant plusieurs semaines. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on n'a même pas de visibilité. Quand est-ce que toi, tu vas jouer avec Grenoble ?
Non, mais après, ça soit bien clair, je parlais vraiment de la santé. Maintenant, c'est sûr que on est tous frustrés. On ne sait pas quand le championnat va reprendre, on ne sait pas quand va être notre prochain match. Donc, c'est quand même une période assez compliquée à vivre. Et voilà, malheureusement, on n'a pas le choix. Après nous, on a la chance de pouvoir continuer à s'entraîner et de se voir tous les matins. Donc, sur ce coup-là, on est assez chanceux, mais c'est sûr qu'on est frustré, on s'entraîne, mais on sait pas trop pour quel objectif en fait. Donc c'est ça qui est dur à gérer. Est-ce que tu dois te donner à fond maintenant ? Est-ce qu'on reprend la semaine prochaine ? Est-ce qu'on reprend dans un mois, deux mois ? On ne sait rien. Donc c'est ça qui est dur à vivre.
Il n'y a pas plus routinier qu'un hockeyeur, je pense, hein, depuis qu'il est sur les patins jusqu'à atteindre le haut niveau. Il y a des habitudes de travail qui sont quotidiennes. Comment on parvient à maintenir ça avec des accès à la glace qui sont parfois un peu compliqués?
C'est exactement ça. On est tous dans une, du moins pendant la saison, on a tous une routine propre à soi-même. Et du coup, là, tout est chamboulé et on ne sait pas trop. Comment travailler, on ne sait pas si on doit travailler notre explosivité, si on doit travailler notre force. D'habitude, ça, on le sait parce qu'on sait que dans deux jours, on a un match ou le lendemain. Donc, comme tu as dit, on a notre routine et là, tout est chamboulé. Donc, je pense que nous, en tout cas, à Grenoble, on a commencé comme une deuxième préparation d'été, en fait. Et puis on travaille tout dans ce sens-là et puis on verra bien. Au fil des jours, ce que ça donne et si on a des nouvelles pour la suite de notre championnat.
Alors effectivement, sur la Ligue Magnus, il y a des discussions qui sont en cours pour éventuellement pouvoir jouer à huis clos, mais ça dépend d'aide. C'est un sujet qu'on a pas mal traité sur plan de match. On y reviendra, mais je pense qu'effectivement, c'est frustrant. Je rebondis sur l'intervention de Philippe, sur les conséquences de l'équipe de France. Alors, les conséquences sont multiples. Le fait d'annuler les championnats du monde, mais pas que, puisque finalement les regroupements de novembre et décembre ont été annulés. Comment s'organise cette saison avec un objectif aujourd'hui qui n'est plus les championnats du monde, mais le TQO, avant d'arriver sur le TQO, comment on s'organise pour maintenir ce lien et puis pour suivre les joueurs, parce qu'on a des joueurs aujourd'hui qui ne jouent pas. Et puis, on a d'autres qui jouent aujourd'hui, malgré tout, dans certains championnats, en Finlande notamment, ça joue.
Bah écoutez, c'est un peu je crois qu'on s'est lancé à l'annonce du fait qu'on ne ferait pas les stages en novembre et en décembre. Il a fallu réfléchir très vite au sein de la fédération de ce qu'on allait faire. On a échangé avec les joueurs, les joueurs ont échangé entre eux, puis les joueurs nous ont fait un retour, un petit peu des besoins qui pourraient y avoir dans cette période. Et au jour d'aujourd'hui, on a ciblé, trois gros chantiers et puis après des aides sur certains thèmes par épisode. L'aspect mental où on va s'atteler dans les prochaines semaines avec une aide. On avait déjà commencé d'ailleurs avec ce groupe, avec une personne de l'INSEP qui est Yann Neumer, un travail et là on va le poursuivre et puis on va le poursuivre notamment sur les effets du Covid sur les joueurs, sur l'impact que ça a sur leur morale, leur mental, sur le fait de pas avoir d'objectif, comme a dit Damien là, c'est problématique pour les joueurs, comment on évolue dans ce milieu sans objectif pour l'instant. On aura un autre aspect qui est l'individuel, donc les joueurs nous ont demandé plus de retours individuels, donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est là le premier pas, ce mini-camp à Grenoble où on va vers les joueurs et là on a réuni les joueurs de deux trois clubs pour minimiser le nombre de joueurs et puis on va refaire la même chose le week-end prochain à Rouen puis après on va tourner dans d'autres clubs donc pour aller voir les joueurs de Ligue Magnus et leur offrir des entraînements supplémentaires. Là c'est plus orienté on va dire sur l'individuel, sur la technique individuelle. Et puis, on aura aussi l'aspect physique. On va se pencher. On attendait, on va dire, la date là des réunions de l'IHF pour voir si une décision tombait. Maintenant, on le sait. Donc, on va plutôt pouvoir planifier un peu plus concrètement au niveau physique ce qu'on veut faire. Et on va essayer d'aider les joueurs au niveau physique. Et après, comme j'ai dit, les petits épisodes, c'est... On peut avoir une réunion Zoom sur la diététique. On peut avoir sur qu'est-ce qu'on a eu sur le Covid. On a eu bien évidemment par les médecins. Et puis après deux trois autres thèmes qu'on a en tête, on fera des réunions comme ça. Ça permet à la fois de garder le lien avec les joueurs et puis de leur offrir des services tant bien qu'on peut faire ça avec les moyens du board d'aujourd'hui.
Du coup, on constate dans les championnats qui ont repris. Bon, il y a déjà, d'une part, il y a beaucoup de matchs qui sont reportés, hein, que ce soit en USHL ou en Ligue du Québec, par exemple, pour les rangs juniors aux États-Unis ou au Canada. Mais on constate aussi que dans ces championnats, il y a des groupes qui sont de plus en plus élargis. Je pense comme un club comme le Dynamo Minsk en KHL qui a déjà utilisé 39 joueurs cette saison. Est-ce que du coup, cette nouvelle réalité vous pousse aussi, staff de l'équipe de France, à élargir un peu plus le groupe que ce que vous aviez prévu?
La certitude est que le Covid va avoir sûrement, ou peut-être, ça l'avenir le dira, mais des impacts sur la sélection. Il y a des joueurs qui ont d'ores et déjà dû prendre des décisions sur la suite de leur carrière, qui n'évoluent plus en Ligue Magnus, qui vont être en Division 1. Il y a d'autres joueurs au jour d'aujourd'hui qui n'ont toujours pas de club, qui n'ont toujours pas joué. D'autres qui arrivaient peut-être en fin de carrière, ça repousse d'un an encore. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette année? Donc effectivement, c'est peut-être pas le même groupe qu'on va retrouver quand on se mettra en branle ou sur les TQO que les derniers qu'on pouvait avoir. Donc, dans ce sens-là, on a ouvert, et puis au jour d'aujourd'hui, concrètement, on peut travailler qu'avec les joueurs de Ligue Magnus sur du où on peut se déplacer chez eux. Du coup, on ouvre un peu plus sur le groupe entre seniors et U25 qu'on avait créé pour garder les gens, pour voir les gens, pour voir leur évolution, pour leur faire un service. Et puis à eux, et la compétition fera que les aléas de la vie aussi, comme j'ai dit, feront que ils feront une place ou d'autres la perdront. Et voilà, je pense que cette période du Covid peut avoir un impact effectivement sur la sélection et sur pour les prochaines échéances.
Notamment le TQO.
Pour le TQO, encore une fois, on n'est pas rentré encore dans tout, mais il va y avoir, on espère, un championnat d'ici là et des gens qui vont être en fin de saison. Et on ne sait pas si certains vont continuer. On ne sait pas encore si certains auraient fait complètement une année blanche. Voilà, c'est tout ça est quand même très compliqué avec des incertitudes. Donc, vaut mieux préparer ça avant, de garder plus de monde à faire travailler dans nos groupes pour pas avoir de surprises et d'aller repêcher des gars qu'on n'aurait pas fait travailler et qui viennent à la dernière minute.
Et toi, Damien, dans ces moments-là, alors je sais que la saison est compliquée, maintenant tu nous l'as dit tout à l'heure, au niveau de la santé, ça va, il y a cette frustration de ne pas savoir jouer. Comment t'appréhendes avec les joueurs avec lesquels tu peux être en contact de l'équipe de France ou les joueurs français ce moment-là un peu compliqué, parce que on le répète, mais pas de grand regroupement en novembre, pas de grand regroupement en décembre. On ne sait pas si il y en aura un potentiel en février et en avril, puisqu'il n'y a plus de championnat du monde. Comment vivent les joueurs ce moment-là, toi, et puis ceux avec qui tu peux être en contact?
Un peu comme moi, hein. Enfin, avec les joueurs avec lesquels je suis en contact, c'est sûr que c'est compliqué pour eux. Enfin, c'est compliqué vraiment pour tout le monde. C'est sûr qu'on a tous été déçus de voir le stage annulé, celui où on devait aller en Slovénie là. Donc parce qu'on est, voilà, c'est un groupe qui vit bien et on avait commencé, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, on avait commencé à mettre vraiment des choses en place au dernier stage en Autriche l'année dernière, il y a 2 ans. Enfin, ça commence à remonter maintenant. Mais, et puis voilà, on était tous contents et fiers de porter ce maillot de l'équipe de France. Et puis là, d'un seul coup, tout s'arrête. Donc c'est sûr que ouais, c'est compliqué. Maintenant, on garde quand même espoir. Et on a, même si le championnat du monde a été annulé la semaine dernière ou il y a quelques jours, nous on a vraiment dans nos têtes maintenant, ça fait plusieurs années, on a vraiment le TQO comme objectif et vraiment on a hâte d'y être et de commencer cette prépa pour le TQO, de se retrouver et de faire une grosse performance là-bas.
J'imagine que de toute façon un peu tous les pays sont dans le même cas, c'est un peu un TQO qui va se jouer plus ou moins à armes égales, mais j'imagine que cette période complètement frustrante va d'autant plus se donner le couteau entre les dents aux joueurs d'équipe de France. Donc voilà, il y aura eu peu de matchs ensemble au cours de la saison, mais le peu qu'il va y avoir, ils vont vraiment compter très très fort.
Effectivement, je reviens là sur les trois grands chantiers, le mental effectivement, je pense que c'est important et c'est à suivre, et d'ailleurs on y reviendra très prochainement dans un podcast Au-delà de la glace sur comment les joueuses peuvent gérer ces moments-là. La partie individuelle, j'imagine que là c'est un gros travail à faire, parce que comme tu l'évoquais, Philippe, on a aussi bien des joueurs qui ne jouent plus, des joueurs qui n'ont pas joué depuis très longtemps et qui vont peut-être jouer dans quelques semaines, je pense notamment à Anthony Reck en Allemagne, des joueurs qui n'ont pas de club. De mémoire, on a encore Johan Ovitu qui n'a pas de club en Finlande, et puis on a les trois joueurs qui jouent en NHL qui savent finalement pas quand est-ce qu'ils vont reprendre. Et cette situation un petit peu sans visibilité pourrait faire que potentiellement ils ne pourraient non plus pas venir au TQO en août prochain. Ça, c'est un élément que vous avez dans vos réflexions, où on est encore trop tôt dans cette crise sanitaire. Et question autres. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de se dire on est capable de se regrouper en février ou en avril pour travailler sur des mini-stages et peut-être des rencontres avec d'autres nations.
Bah écoutez, pour la dernière question, avril, on ne fera pas stage en avril, c'est sûr. D'autant plus que la demande des clubs de Ligue Magnus est que, entre autres, ils espéraient que s'il n'y avait pas de championnat du monde, c'était un peu la tendance, ils puissent avoir le championnat qui se prolonge tout le mois d'avril pour compenser ce qu'ils n'ont pas joué ici. Et de toute façon, ça va être la tendance un petit peu partout en Europe. Il y a beaucoup de championnats qui ont du retard. Donc, ça va être la tendance. Je ne vois pas en avril qu'on se réunisse. J'espère qu'en février, on maintienne le stage. La trêve IHF est toujours là. Il y a le tournoi en Autriche qui est toujours prévu au jour d'aujourd'hui. Mais ça, c'est bien évidemment les conditions sanitaires qui vont nous dire si on va pouvoir voyager, si les Autrichiens maintiennent. On verra ce qui se passe à ce moment-là. La première partie de la question, la NHL, certains joueurs ont joué. Là aussi, c'est beaucoup d'incertitudes. C'est sur la NHL, c'est beaucoup plus compliqué ce que les gens veulent bien entendre là. On entend dire que ça va reprendre en janvier, mais je pense que la réalité des choses n'est pas celle-là. Les joueurs, le syndicat des joueurs, je suis bien placé, est assez important pour pas accepter tout ce qui se dit en ce moment. Il y a pas mal de scepticisme quant à la saison là. Voilà, nous on subit un peu les situations de chacun. Maintenant, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va essayer maintenant de se projeter sur les TQO. La date pour l'instant est maintenue par l'IHF, sachant quand même qu'ils ont déjà parlé à l'IHF que si on pouvait pas le faire au mois d'août, ils basculeraient ça au mois de novembre. Donc il y a une date de réserve, on va dire. Mais voilà, nous on peut au jour d'aujourd'hui essayer de se projeter sur le TQO du mois d'août et essayer de planifier quelque chose avec les contraintes que l'on sait au jour d'aujourd'hui des championnats qui vont se rallonger et des idées qu'on va pouvoir avoir pour lancer une préparation olympique à partir de début janvier.
Alors justement, sur le TQO août-novembre, je sais qu'au niveau des filles, ça a été décalé directement au mois de novembre. Et est-ce que finalement, ce ne serait pas plutôt un avantage? Alors, il faut peser le pour et le contre, puisque ce serait une nouvelle saison. On peut espérer que la situation compliquée qu'on vit actuellement soit quand même beaucoup moins compliqué après l'été 2021, ce qui veut dire qu'il y aurait un peu plus de rythme pour tous les joueurs qui reprendraient dans leurs différents championnats. Est-ce que finalement, ce serait pas non plus une bonne option de l'avoir au mois de novembre, avec le risque peut-être, effectivement, de pas avoir certains joueurs qui seraient engagés dans des gros championnats comme éventuellement la KHL ou la NHL? C'est le risque, c'est peut-être le contre-argument de ce que je viens de dire, mais pour se donner plus de temps.
Oui, il y a les deux versions, mais moi, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je préfère que ça se maintienne en août parce que je pense que août est une période où on pourra avoir une meilleure préparation. Novembre, ça sera très compliqué d'avoir une vraie préparation. Comme l'a dit, si les championnats reprennent, je vois mal demander à faire arrêter les championnats 3 semaines. En tout cas, on peut éventuellement le faire en France, mais on ne le fera pas à l'étranger, c'est sûr. On n'aura pas la même mise à l'étranger. Donc, on sait au jour d'aujourd'hui, on a quand même un contingent de joueurs qui jouent à l'étranger assez important. Et ça voudrait dire une préparation très restreinte, voire quasi nulle. Et en ce sens-là, nous, on préférerait quand même avoir au moins une préparation de 2 ou 3 semaines avant le TQO, et je pense que août est une meilleure période pour ça.
C'est sûr qu'il va nous falloir de la préparation avant d'entamer ce TQO, donc voilà. Et puis ça fait tellement longtemps qu'on l'attend maintenant que plus vite il arrive et mieux ce sera, même s'il va falloir s'entraîner un peu avant.
C'est pas compliqué mentalement parce qu'il devait avoir lieu l'été dernier. Là, on démarre une saison et finalement, on ne sait pas trop où on va. Alors, on a cette date du mois d'août et on vient de se dire que potentiellement, ça pouvait être décalé au mois de novembre. Mentalement, ça ne doit pas être simple parce qu'on sait que c'est un gros objectif, c'est primordial pour le hockey français, pour l'équipe de France. Mentalement, physiquement, ça ne doit pas être simple à gérer tous les jours.
Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, maintenant, on a... Enfin, en ce moment, on a quand même pas mal de choses à gérer et c'est sûr que c'est pas évident. Mais voilà, après, on est tous pros et on a tous vraiment des objectifs en tête et celui-là en fait partie. Donc voilà, on le gère du mieux possible et à nous d'être prêts le jour où STQO commencera.
Alors moi, j'aurais une question quand même, parce qu'il y a effectivement quelques championnats qui jouent actuellement. Le scouting ne se fait évidemment que en vidéo. Je ne sais pas trop quelle est la qualité de diffusion de matchs pour des championnats qui sont actuellement en cours. Il y a par exemple un certain nombre de joueurs qui frappe à la porte de l'équipe de France qui évolue en mestice finlandaise avec des bons débuts de saison pour Gabinville, Bastien Maya ou même Robin Colomban pour sa première expérience à l'étranger. Comment Philippe, tu arrives à scouter comme ça un peu en vidéo?
Bah, au jour d'aujourd'hui, j'arrive... J'ai la chance pendant un petit moment là d'avoir un outil qui me permet de voir tous les joueurs. Je sais pas si on va pouvoir le prolonger toute l'année, mais en tout cas sur le dernier mois, j'ai vu par exemple les trois derniers matchs des joueurs tchèques, des joueurs finlandais, des joueurs qui sont à l'étranger quasiment tous. Donc j'ai vu leur niveau de performance. Ça c'est aujourd'hui. Maintenant, ce que je vois aujourd'hui, ça me sert à rien, mais je veux dire, au moment de la sélection, on sera peut-être dans 2 mois ou peut-être dans 5 mois, donc ça sera peut-être aussi différent. Donc, on emmagasine un maximum d'informations, on voit où il y a les joueurs. Ce que je disais... en préambule, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, la situation du Covid fait que certains joueurs font des choix. Les joueurs en fin de carrière vont peut-être arrêter, et puis les jeunes joueurs, eux prennent de la maturité, prennent 1 an, prennent 2 ans presque, et évoluent. Donc, effectivement, on frappe à la porte. Donc, au moment où on fera nos choix, on verra la forme de chacun, la situation de chacun, et puis pour faire nos choix.
Tu parlais d'outils. Ce ne serait pas un outil comme Sport Contract que vous utilisez pour suivre, notamment en termes vidéo, les joueurs?
On utilise Instat au jour d'aujourd'hui.
D'accord. Vous utilisez Instat uniquement pour la partie vidéo?
Ça me permet de voir tous les joueurs. Ça permet de faire beaucoup d'autres choses. On a juste... Si on veut, on pourrait faire... des clips individuels de chaque match des joueurs et puis faire des vidéos individuelles de chaque joueur. Cet outil nous le permet. Cet outil permet énormément de choses. Me permet, si je veux aller voir la Suède, le power play de la Suède, le dernier coupe Karjala, j'ai pu le voir. ça permet énormément du scouting de nos joueurs, du scouting des autres équipes, tout. Quasiment le lendemain des matchs, on peut avoir. Et l'avantage, c'est que je n'ai pas à faire tout le match. Je peux voir juste les présences de nos joueurs. Donc, c'est vraiment un outil fabuleux.
Et ça, c'est un outil qui a été pris par la fédération, j'imagine, pour la partie vidéo, mais j'imagine que la partie statistique, parce que Instat, c'est un logiciel comme Iceberg ou comme Sportlogic qui peut être utilisé dans différentes ligues, que ce soit en NHL, que ce soit en Suisse, dans certaines ligues. Effectivement, vous avez tout un tas de statistiques sur les face-offs, sur les expecting goals, etc. C'est aussi quelque chose que vous regardez ou c'est vraiment sur la partie jeu pur vidéo, comment se comporte le joueur?
Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas signé avec Instat. On est dans c'est des périodes d'essai qu'on utilise et qu'on apprend à à connaître cet outil. On a eu des présentations et on s'est servi aussi des matchs qui nous ont envoyés de l'équipe de France l'année passée en février pour aussi voir toutes les analyses et effectivement toutes les stats qu'on pouvait en retirer. Donc voilà, on est en train d'apprendre, mais là, au jour d'aujourd'hui, ça me permet de voir tous les joueurs, tous les matchs que j'ai envie et je peux très bien voir Teddy Da Costa en Pologne, que le joueur en Mestis, que les joueurs dans KHL de Grande Ligue. Je peux même aller voir ceux qui commencent leur championnat aujourd'hui en NCAA, comme Boudon, Adamo, par exemple. Donc voilà, ça permet tout ce panel de choses. Les statistiques, on en a certaines, mais je ne pense pas que ce soit le plus important aujourd'hui.
Effectivement, je pense qu'il y a la partie scouting. Ok. Est-ce que toi, Nicolas, tu aurais une dernière question? Et puis, on va tranquillement passer sur le côté un peu plus culture, j'allais dire.
Non, je pense que du coup, j'ai eu les réponses à mes questions sur la dernière intervention de Philippe sur le scouting. Et donc, de voir aussi... que les joueurs évoluant en NCAA sont également suivis, je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, même si là aussi, le championnat NCAA qui vient tout juste de reprendre, déjà eu des matchs qui ont été reportés, donc je pense que ça va être un peu en pointillé pendant quelques temps. Mais c'est bien de savoir effectivement que ces joueurs-là sont aussi sur les listes.
Pour les joueurs NCAA, hein, on avait l'intention de les faire venir... déjà l'année passée, dans le groupe 25 ans, et puis dans l'été. Et puis, le programme fait qu'avec leurs examens, les contraintes des examens, a fait qu'on n'a pas pu les voir. Mais ça fait un moment qu'on veut essayer de les voir dans notre groupe. Voilà, après, les États-Unis, l'université avec les diplômes, c'est plus compliqué.
Alors, moi, j'en aurais une dernière pour Damien. Je rebondis sur ce qu'on vient d'évoquer sur Instat. Toi, à titre personnel, ou parmi les jeunes que tu peux côtoyer, est-ce que c'est quelque chose qui que vous regardez que pour la partie vidéo quand vous avez ce type de logiciel? Alors, vous n'avez peut-être pas forcément celui-là à Grenoble, mais vous en avez forcément un autre sur la partie vidéo. Et puis, sur la partie ce qu'on évoque, partie un peu plus statistique avancée, ce que j'évoquais tout à l'heure, les expecting goals ou ce genre de choses. Toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu en penses? Je sais qu'on a déjà eu cet échange précédemment, mais voir si ce que tu en penses aujourd'hui. Et puis au niveau des jeunes joueurs, si c'est quelque chose qui les intéresse ou pas.
Nous, à Grenoble, en équipe de France, c'est pareil, mais voilà, en ce moment, c'est Grenoble. Après chaque match, on a la feuille des stats dans le vestiaire et on sait mais tout, on sait absolument tout de notre match, donc voilà, même si des fois on a l'impression d'avoir fait plus ou moins un bon match, quand tu regardes ta feuille de stats, tu te dis bah finalement j'ai pas été si bon que ça, donc et puis inversement, et non, c'est sympa. Et puis ça montre aussi le par exemple moi en tant que centre, quand je fais un match et que j'ai un pourcentage pas scandaleux, mais presque, ça m'énerve. Et du coup, je travaille plus à l'entraînement le lendemain sur cet aspect-là de mon jeu. Donc voilà, non, c'est important. Et je sais que les jeunes aiment ça, nous, les moins jeunes aussi. Mais non, c'est, je pense que maintenant, ça fait partie vraiment du hockey moderne. Et puis, il faut savoir s'appuyer là-dessus.
Ok, que tu parlais de pourcentage de face-off, j'imagine.
Ouais, pourcentage de face-off, même pourcentage... si tu fais 10 tirs dans le match et que tu as un but, voilà, travailler sur ton shoot, voilà, il y a plein d'aspects du jeu qu'on peut améliorer, et notamment grâce à la feuille des stats après les matchs.
Je crois qu'on a fait pas mal le tour et je vous remercie. Je vais vous faire écouter un jingle. En fait, c'est le moment où je vais vous poser une question qui est un peu en dehors des échanges qu'on vient d'avoir, mais je pense que c'est important, notamment en période de confinement, même si ce deuxième confinement pour certains peut paraître plus souple, puisqu'on peut un peu plus se déplacer, notamment si vous avez des enfants qui vont à l'école. En fait, avoir votre conseil, ou en tout cas un livre ou un film qui vous a marqué et qui soit soit lié au hockey, soit pas. Je vais commencer par Philippe.
Moi, j'ai une personne que j'aimais bien dans le coaching et de voir son équipe, c'était Arsène Wenger. Donc, j'ai acheté son livre et je suis en train de lire son livre. Et puis, du coup, j'ai beaucoup de similitudes avec lui sur comment il a eu la défaite et comment ça peut être traumatisant pour lui. Et c'était marrant de voir qu'un grand coach comme ça, qui a quand même connu pas mal de succès, relatait ça. Et moi, souvent, je vis les défaites un peu comme lui. Voilà, c'est le livre que j'ai actuellement. Et puis, je suis en train de chercher d'autres livres, mais ça, c'est plus spécifique sur notre discipline avec des préparations qui sont aux États-Unis entre le mental et la connexion du mental avec les gestes d'aujourd'hui. Voilà, sur les films, en ce moment, je regarde beaucoup de films et beaucoup de séries et je n'ai pas tous les noms, mais c'est quasiment tous les soirs. On est obligé de se tenir occupé. Donc, voilà. Mais il y a beaucoup d'histoires vraies en ce moment, comme Midway, la guerre qui avait eu lieu au Japon avec les Japonais en 1939. C'est toutes des histoires vraies qui sont touchantes. Voilà.
Et toi, Damien ?
Après, si, un film de hockey qui m'a marqué dans ma jeunesse, c'est bien sûr Youngblood. C'est un film que j'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois. Voilà, maintenant, je lis pas beaucoup. C'est pas bien, mais voilà, faut que je m'y mette. Mais non, après sinon, je regarde un peu vraiment tout et n'importe quoi. J'aime bien regarder des documentaires sur les sportifs et puis sur tous les sports. Je suis vraiment un passionné de sport, donc voilà, je m'intéresse vraiment à tous les sports qui peuvent exister et puis voilà.
Ok, mais alors par contre, je ne peux pas résister à l'envie de poser la question également à Nicolas, puisqu'il est bibliothécaire et je suis persuadé que des livres, il va nous en donner des dizaines.
C'est extrêmement fourbe de ta part parce que maintenant, il va falloir que je choisisse et ça va être très dur. effectivement, de par mon métier, je lis plus que la moyenne, c'est nécessaire. Par contre, évidemment, je lis de tout et pas spécifiquement des choses liées au hockey ou au sport en général. Donc, en cette période de confinement, moi, je vais choisir un livre de science-fiction confiné, qui est l'un de mes gros coups de cœur de ces dernières années. C'est un livre d'une autrice américaine qui s'appelle Becky Chambers. Et ce livre s'appelle « L'espace d'un an ». Et c'est donc l'histoire de plusieurs personnes qui doivent réaliser un voyage dans l'espace et qui vont donc vivre en vase clos avec l'apprentissage de leurs différences. Chacun a un peu un lourd passé qui va se révéler évidemment au fil de l'histoire et il va falloir réussir à vivre ensemble. Donc je trouve que en cette période de confinement, le thème est assez adapté. Et en côté série télé, écoute, je viens de terminer Le jeu de la dame sur les échecs et qui est un petit bijou. Je me suis régalé. C'est très touchant, c'est passionnant sur la haine de la défaite dont parlait Philippe. Je trouve que le personnage principal est tout à fait dans cet état d'esprit-là avec ses propres fragilités. Voilà, c'est vraiment une très très bonne série.
Eh bien, merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast Au-delà de la glace. On continuera à suivre, évidemment, en fonction des événements. On vous suivra, j'en doute pas, sur le TQO en Lettonie, normalement au mois d'août. Et puis, j'espère de tout cœur pouvoir vous suivre également à Pékin en 2022. C'est vraiment l'objectif et je pense que tout ce temps que vous êtes, que ce soit Philippe en tant que coach, toi Damien en tant que joueur et toute l'équipe de France masculine le mérite également, ça nous permettrait d'avoir un peu plus de notoriété dans notre pays. Donc je vous remercie encore une fois, Au-delà de la glace va continuer et typiquement par rapport au sujet qu'on a évoqué aujourd'hui qui sont transverses à l'ensemble des collectifs, je pense notamment à la préparation mentale. On aura un podcast qui aura lieu dans quelques jours, qu'on enregistrera dans quelques jours sur la préparation mentale et liée à la préparation physique. Donc c'est prévu. Et puis par rapport aux outils qui peuvent être utilisés, et notamment à Instat. Alors nous, on est assez friands de statistiques avancées côté au-delà de la glace, plan de match. On a prévu également de faire un comparatif sur l'utilisation des statistiques avancées entre le championnat en France et le championnat en Suisse. Et ça arrive également dans quelques semaines. En tout cas, vraiment, merci d'être venu. Merci Philippe.
Merci à vous, c'est très gentil. Merci et puis bonne continuation et continuez à parler du hockey, on en a besoin.
Merci à vous d'être présent et c'est toujours important de pouvoir donner la parole à ceux qui font le hockey. Merci Damien.
Merci, un plaisir.
Et puis merci Nicolas et puis on se retrouvera je pense autour d'autres podcasts ou d'autres façons de parler du hockey, que ce soit sur plan de match, le blog, que ce soit un podcast, et on a plein d'autres idées qu'on va mettre en avant, éventuellement des reportages, mais ça on en parlera plus tard. Merci Nicolas vraiment aussi d'être présent.
Merci Brice du travail que tu fais sur plan de match.
Merci.